Bonjour à tous. Alors, le passage se trouve en Jean chapitre 2 et ce sont les versets 13 à 25. La Pâque des Juifs était proche et Jésus monta à Jérusalem. Il trouva dans le temple les vendeurs de bovins, de moutons et de colombes, ainsi que les changeurs assis. Il fit un fouet de cordes et les chassa tous hors du temple avec les moutons et les bovins. Il dispersa la monnaie des changeurs, renversa les tables et dit aux vendeurs de colombes « Enlevez tout cela d'ici. Cessez de faire de la maison de mon père une maison de commerce. » Ses disciples se souvinrent qu'il est écrit « La passion jalouse de ta maison me dévorera. » Les Juifs lui dirent « Quel signe nous montres-tu pour agir de la sorte ?» Jésus leur répondit « Détruisez ce sanctuaire et en 3 jours je le relèverai. » Les Juifs dirent « Il a fallu 46 ans pour construire ce sanctuaire et toi, en 3 jours, tu le relèveras. » Mais le sanctuaire dont il parlait, lui, c'était son corps. Quand donc il se fut réveillé d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il disait cela. Ils crurent l'Écriture et la parole que Jésus avait dite. Pendant qu'il était à Jérusalem, à la fête de la Pâque, beaucoup mirent leur foi en son nom, à la vue des signes qu'ils produisaient, mais Jésus, lui, ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous, et parce qu'il n'avait pas besoin qu'on lui présente un témoignage sur l'homme. Lui-même connaissait ce qu'il était dans l'homme. Bonne fin de culte.
Ça fonctionne avec la télécommande, c'est bon ? Ouais. Formidable. Voilà, bonjour à tous. Alors, comme cela a été largement rappelé, dans les 2 premiers chapitres, l'apôtre Jean a pour objectif de nous présenter Jésus, de nous dire qui est Jésus. Alors, il nous présente Jésus de façon glorieuse dans son prologue, en nous le désignant comme la parole faite chair qui était avec Dieu, et qui était Dieu. Plus loin, Jean le Baptiste nous le présente comme le Fils de Dieu et comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Les premiers disciples le reconnaissent comme le roi d'Israël, le Messie annoncé par la loi et les prophètes. Et Jésus, enfin, c'est la fin du chapitre 1, Jésus se présente lui-même comme le Fils de l'homme, c'est-à-dire en relisant le livre de Daniel dans l'Ancien Testament comme l'égal de Dieu, comme celui à qui Dieu a remis toute autorité. Et alors, il y a 15 jours, avec l'épisode des noces de Cana, Jean nous a présenté Jésus comme l'époux qui nous invite au banquet, qui nous invite à la fête, et qui nous annonce par là même que le royaume de Dieu a été enfin inauguré. Alors, avec la seconde partie du chapitre 2, Jean va poursuivre cette présentation, son dévoilement de Jésus. Il va nous présenter un aspect de la personne de Jésus assez dérangeant, assez inconfortable, qui, je l'espère, plutôt que de nous décourager, nous permettra de mieux connaître Jésus, de mieux savoir qui il est vraiment. Alors je vous propose de méditer ce passage en 3 temps. Nous verrons dans un premier temps que Jésus est le juge. Jésus le juge. Dans un second temps, qu'il est le temple. Jésus le temple. Et nous verrons enfin ce qu'il attend de nous. Jésus, son attente. Mais commençons donc par Jésus, le juge. Alors, je l'avais dit, donc, la présentation que l'apôtre nous fait de Jésus est parfois dérangeante. On aime dans nos sociétés que les choses soient polissées, sans éclat de voix, sans violence, les troublions à l'ordre public, tous ceux qui nous empêchent de tourner en rond. Nous n'aimons pas trop. Finalement, nous ne sommes pas si différents, nous le verrons, des autorités juives de l'époque. Alors Jean, nous l'avons rappelé donc en introduction, a présenté Jésus comme le Fils de Dieu, c'est-à-dire le Messie, c'est-à-dire le roi, tout simplement. On peut traduire par le roi qui vient rassembler son peuple. Quoi de plus normal, donc, si Jésus est vraiment le roi ? Qu'il exerce la justice ? La justice, en effet, est une des grandes prérogatives royales. On peut penser à notre bon roi Saint-Louis, qui rendait la justice sous son chêne, à Vincennes, paraît-il. Bon. Jésus est le roi. Il a donc toute autorité pour juger. Que dirions-nous, en effet, d'un roi qui ne rend pas la justice, qui ne punit pas la faute, qui ne défend pas le droit? Aurions-nous confiance en un tel roi? Voudrions-nous vraiment le servir? Ici, Jean nous permet de comprendre que Jésus n'est pas le bon Dieu, comme nous l'entendons trop souvent. Il serait un roi débonnaire, qui fermerait les yeux sur nos petits écarts et même sur nos fautes les plus graves. Il passerait par-dessus, après nous avoir quand même un petit peu grondés. Si Jésus était ainsi, il ne serait pas un roi juste. Il ne serait qu'un usurpateur, prêt à se compromettre avec le mal pour conserver sa triste couronne. Jean ne présente ici Jésus tel qu'il est, le grand roi qui a toute autorité pour faire justice. Alors nous verrons successivement le but d'un tel jugement, qu'est-ce que Jésus cherche à faire, pour nous arrêter ensuite sur la motivation qui a amené Jésus à juger. Mais commençons donc par le but d'un tel jugement. Qu'est-ce que Jésus cherche à faire? Il cherche à purifier le temple. C'est notre première partie, la purification du temple. Alors le temple était le lieu où Dieu venait rencontrer son peuple. C'était pour les Juifs un lieu très important, un lieu saint qu'on ne pouvait pas approcher comme cela, car en s'en approchant, on entrait dans la présence de Dieu. Et il y avait des règles très compliquées pour s'approcher du temple. N'importe qui ne pouvait pas y entrer. Seuls les prêtres étaient autorisés à le faire. Et seul le grand prêtre pouvait entrer dans le lieu le plus saint, le plus consacré du temple, qu'on appelait le Saint des Saints, ou le lieu très saint. Et cela, le sacrificateur, le grand sacrificateur, ne pouvait le faire qu'une fois par an. Et puis donc, c'était très compliqué pour lui d'y entrer. Il devait offrir des sacrifices pour son propre péché, avant d'en offrir pour le péché du peuple et obtenir ainsi le pardon de Dieu. Le temple, donc, a un lieu d'une importance capitale où l'on venait rencontrer Dieu pour recevoir son pardon et pour lui offrir son adoration. Il fallait donc y venir avec un cœur consacré, un cœur tout à la fois repentant et aimant Dieu. Un cœur se réjouissant d'être dans la présence de Dieu, un cœur reconnaissant pour la grâce que le Dieu trois fois saint accordait à son peuple en l'accueillant dans sa présence. Cette disposition de cœur, c'est-à-dire finalement, de quoi parle-t-on? L'adoration véritable. Cette disposition de cœur, le peuple et ses responsables l'ont rarement eue. Il y a bien eu quelques périodes de réveil spirituel dans l'histoire d'Israël, des temps de repentance sincère, mais hélas, toujours très courts. La réalité de la vie spirituelle du peuple était tout autre. Combien de fois les prophètes parlant au nom de Dieu ont déclaré au peuple, aux responsables religieux, « J'ai en horreur vos sacrifices. Ils me dégoûtent. Ce que je veux, ce sont des cœurs qui m'aiment. » Le peuple donc rend un culte à Dieu de manière souvent très formelle, légaliste. Il adore Dieu avec la bouche, mais non avec le cœur. Voici la réalité religieuse du peuple d'Israël. L'amour pour son Dieu lui est totalement extérieur. Alors au temps de Jésus, la situation spirituelle du peuple et des autorités était bien celle-ci. Le peuple adorait. Mais de façon formelle, oui, oui, les formes du culte sont bien là. Le peuple fait des sacrifices, c'est la Pâque, tout le monde vient pour porter son sacrifice. Heureusement d'ailleurs que le peuple fait des sacrifices, car cela permet à pas mal de gens de bien vivre. Mais son cœur n'est pas consacré à Dieu. Et les autorités religieuses ont une grande part de responsabilité dans ce désastre spirituel. Ce sont elles qui ont laissé un système totalement corrompu et hypocrite se mettre en place. Et cela, nous pouvons le deviner facilement. parce que ça leur rapportait de l'argent. Il ne fait pas de doute que les vendeurs du temple, les changeurs devaient payer eux-mêmes un impôt aux autorités religieuses pour commercer en toute tranquillité dans les parvis du temple. Le résultat de tout cela, c'est que le temple, lieu d'adoration de Dieu, est devenu une maison de commerce. C'est Jésus qui le dit au verset 16. Cet endroit, c'est d'abord et avant tout l'occasion pour beaucoup de faire de l'argent. En effet, les vendeurs du temple profitèrent de leur position stratégique pour faire payer très cher les animaux qu'ils vendaient. Les pèlerins qui venaient d'un peu partout à Jérusalem pour célébrer la Pâque ne pouvaient pas tous emmener leurs animaux avec eux. Et donc, ils étaient du coup obligés d'acheter sur place et les vendeurs d'en profiter pour faire payer le prix fort. Hein, c'est un petit peu comme le plat de frites en restaurant d'altitude. À 3000 mètres d'altitude, la frite coûte plus cher que dans les plaines de Flandre. Et puis, il y avait aussi les changeurs. Pour la Pâque, les Juifs venaient d'un peu partout, les différents coins de l'Empire, avec leur propre monnaie. Il était donc nécessaire de changer leur argent en monnaie locale. Et là encore, c'était pour certains eh bien, l'occasion de faire de l'argent en proposant des taux de change exorbitants. Le temple donc, si vous me le permettez, une sacrée chance de faire du business. Il n'est plus question d'adoration. Un peu comme à Lourdes, avant d'accéder à la fameuse grotte, je ne sais pas si vous avez déjà vu, vous avez un nombre incalculable de vendeurs en tout genre dans leurs petites échoppes. Disposés donc tout le long du chemin. Et Jésus donc, de chasser ces vendeurs, de purifier le temple. Ce temple doit être nettoyé de toutes ses impuretés pour retrouver sa vocation première, à savoir le lieu où l'on adore Dieu avec le cœur. Par son action purificatrice, Jésus accomplit un certain nombre de prophéties de l'Ancien Testament et prouve ainsi qu'il est bien le roi, le Messie, tant attendu. Alors le dernier des prophètes, Malachie, avait annoncé cette action purificatrice par un mystérieux messager de l'Alliance. Alors, écoutez juste, ce sera plus rapide. Malachie 3, verset 1. « Voici que j'enverrai mon messager pour me préparer le chemin. Et soudain, il entrera dans son temple. » Le Seigneur que vous cherchez, le messager de l'Alliance que vous désirez, le voici qui arrive, dit l'Éternel, le Maître de l'univers. Qui pourra supporter le jour de sa venue? Qui restera debout quand il apparaîtra? En effet, il sera pareil à un feu purificateur, à la lessive des blanchisseurs. Ce messager de l'Alliance n'est autre que Jésus lui-même, qui vient remettre de l'ordre dans la maison de l'Éternel, dans la maison de son Père. Verset 16. C'est la maison de mon Père. Et ce sera notre transition pour notre seconde partie, la motivation de Jésus. Qu'est-ce qui pousse Jésus à se conduire comme il le fait? Qu'est-ce qui le pousse à chasser de façon violente les vendeurs du temple? Si ce n'est son zèle pour son père, si ce n'est la défense de la réputation de son père. Jésus aime, lui, son père. Il aime Dieu. Et devant l'absence d'amour du peuple pour son Dieu, face à l'hypocrisie des uns et des autres, Jésus s'indigne. Il est révolté. Non seulement les hommes ne font pas grand cas de Dieu, mais d'une certaine façon, ils l'utilisent. Pour se faire de l'argent, ils se permettent de se servir de lui. Où sont passés l'amour et la crainte de Dieu? Où est l'adoration que ces hommes doivent rendre à celui qui en est seul digne? Ces hommes ont-ils oublié qu'ils ont pour Dieu le grand Dieu trois fois saint? Son indignation donc est la conséquence directe de son total dévouement pour la réputation de son Père. Et Jésus ici de citer le psaume 69 de David, « Le zèle de ta maison me dévore ». Que vivait le roi David, alors, 1000 ans en arrière, hein, que vivait le roi David au moment où il écrit ce psaume 69? Eh bien, il devait faire face à l'opposition. Il était rejeté par ses ennemis à cause du zèle qu'il démontrait pour la maison de Dieu, à cause tout simplement du zèle qu'il démontrait pour Dieu. Alors, peut-on à ce stade tirer une application pour nous ? Qu'en est-il pour nous de notre zèle pour le Seigneur ? Le zèle de la maison du Seigneur nous dévore-t-il ? Est-ce que la réputation de notre Dieu est un véritable souci pour nous ? Est-ce que cela nous fait mal quand on voit Dieu être moqué, négligé, ignoré ? Alors ne nous trompons pas, nous n'avons pas l'autorité de Jésus, nous ne sommes pas le Messie, nous ne sommes pas les rois. Nous n'avons pas l'autorité de Jésus pour faire ce qu'il a fait au temple, pour juger ceux qui bafouent l'honneur de notre Dieu. Il nous faut exercer notre zèle dans une autre direction. Si le zèle de la maison du Seigneur nous dévore, commençons à regarder à nous-mêmes, à notre vie, pour nous assurer qu'elle n'est pas la cause d'une telle moquerie, d'une telle indifférence de la part de nos contemporains. Il faut bien le reconnaître. C'est trop souvent la vie des croyants qui porte atteinte à la bonne réputation de Dieu. Nous sommes zélés pour le Seigneur. Très bien. Vivons pour lui et offrons aux hommes, au monde qui nous entoure, une vie qui soit conforme à son évangile. Et sachons, comme le roi David, comme Jésus, que nous aurons alors à faire face à l'opposition. Le zèle est coûteux. Autant le savoir. Sommes-nous prêts à en payer le prix pour Jésus ? Son zèle parfait pour son Père a eu un prix incalculable. Alors après Jésus le juge, je vous propose d'entrer dans notre deuxième temps, Jésus le temple. Jésus le temple, et de le faire en deux étapes. Nous verrons tout d'abord que Jésus se présente comme le nouveau temple, et qu'ensuite il annonce que ce nouveau temple sera détruit, mais reconstruit. Nous l'avons dit, en chassant les vendeurs du temple, Jésus voulait purifier le temple pour lui rendre sa vocation première. Mais ne voulait-il pas signifier davantage ? Surtout au regard de ce qu'il dit par la suite, « Détruisez, je reconstruirai ». Alors, le second incident au temple, il y a eu deux incidents au temple, le second incident au temple, relaté cette fois dans les trois autres évangiles, Matthieu, Marc, Luc, et qui a lieu, lui, ce second incident, à la fin du ministère de Jésus. Ce second incident nous aide également à mieux comprendre ce que Jésus fait ici. Alors, lors de ce second incident, qu'est-ce que Jésus a dit ? Vous faites de cette maison de prière une caverne de voleurs. La caverne, c'est le refuge. La caverne, c'est la sécurité. Autrement dit, vous faites croire que ce temple et les sacrifices qui y sont attachés sont une sécurité contre la juste colère de Dieu. Or, il n'en est rien. Ce ne sont pas encore une fois les rites extérieurs, les sacrifices d'animaux qui vont vous permettre d'être en règle contre Dieu, devant Dieu. Jésus, en se présentant comme le nouveau temple, c'est le verset 21, lui parlait du temple de son corps. Jésus, en se présentant comme le nouveau temple, juge l'ancien. Il juge le temple de Jérusalem. Il annonce que ce temple, pourtant au centre de toute la vie des Israélites depuis le roi Salomon, ce temple n'est plus le lieu où rencontrer Dieu. C'est fini. Le temple est à présent obsolète, caduque, dépassé. Il n'est plus qu'un leurre qui trompe le peuple. Oui, Jésus fait ici davantage que purifier le temple. Il le juge, le temple. Il n'y a plus personne à y trouver, sûrement pas Dieu, seulement les vendeurs et les changeurs. Alors si le temple est dépassé, la question qu'il faut se poser, c'est par quoi ? Ou qui ? Quelle réalité spirituelle supérieure ? Quelle institution spirituelle supérieure va bien pouvoir remplacer ce qui était le cœur même de la vie spirituelle du peuple ? Et cela depuis plus de 1000 ans. Si ce n'est plus au temple qu'on peut rencontrer Dieu, où peut-on le rencontrer ? Alors ce n'est pas un autre bâtiment, ce n'est pas une autre institution qui va remplacer le temple, c'est une personne, c'est Jésus lui-même. C'est en Jésus, et en Jésus seul, que nous pouvons rencontrer Dieu. Je vais relire très rapidement le verset 18 du chapitre 1, la fin du prologue. « Personne, nous dit Jean, n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. » Jean, ici par les paroles de Jésus, « Détruisez, je reconstruirai. » Jean enfonce le clou qu'il a commencé à planter dans son prologue. Et quoi de plus logique que de rencontrer Dieu en Jésus, puisqu'il est tout à la fois pleinement Dieu et pleinement homme ? C'est dans sa personne que l'homme rencontre Dieu. Et en Jésus, on ne fait pas seulement une certaine expérience de Dieu, une expérience qui ne serait que partielle, parce que Dieu est infini, il est transcendant. Comment le connaître parfaitement dans cet homme devant nous, Jésus ? On ne peut qu'expérimenter un petit peu de lui en Jésus. Non, en Christ, on rencontre, on connaît parfaitement Dieu. Alors dans le livre de Daniel, un prophète qui a écrit des centaines d'années avant, au chapitre 9, l'auteur, on va revenir au Saint des Saints, c'est important, l'auteur parle de l'onction du Saint des Saints, une expression étrange. Donc le Saint des Saints, on s'en souvient, c'était le lieu le plus consacré du temple, le lieu où le souverain sacrificateur ne pouvait entrer qu'une fois en respectant toutes sortes de règles draconiennes. C'était le lieu qui matérialisait en quelque sorte le plus la présence de Dieu. Mais on n'oignait pas, on ne mettait pas de l'huile sur le Saint des Saints. L'onction, c'était quelque chose de réservé aux personnes. En parlant donc de l'onction du Saint des Saints, Daniel évoque bien une personne, et cette personne, c'est Jésus. Jésus est non seulement le nouveau temple, mais aussi le nouveau Saint des Saints. Qu'est-ce que cela veut dire ? Tout simplement, qu'en Jésus, en Jésus, on ne peut pas être plus près de Dieu. En Jésus, on ne peut pas être plus près de Dieu. Jésus donc, le nouveau temple. Un temple qui sera détruit mais reconstruit. Alors par cette réponse que Jésus fait aux autorités juives, autorités qui ne comprennent pas grand-chose, il confirme sa mort et annonce sa résurrection. Il confirme sa mort tout d'abord. Cette mort, c'est Jean le Baptiste qui l'a annoncé en présentant à deux reprises déjà Jésus comme l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Jésus va mourir. Et sa mort est une mort sacrificielle. Jésus, en effet, nous voulons de le voir, est le nouveau temple, mais il est aussi le nouveau sacrifice. Il est le vrai sacrifice, celui-là seul qui peut résoudre le problème du mal, celui-là seul qui peut être accepté par Dieu et nous réconcilier à lui. Jésus, nous le savons, quelques années après cet épisode au temple, va mourir sur la croix à notre place et expie ainsi pour nous nos fautes. Mais Jésus ne se contente pas de confirmer ce que Jean le Baptiste a annoncé. Il annonce lui-même sa résurrection et en 3 jours, je le relèverai. Jésus annonce qu'il ressuscitera, et cela de sa propre autorité. Je le relèverai. Alors dans l'Ancien Testament, très souvent, Dieu fait une promesse au roi Davidique, à David et puis à ses descendants. Le roi David et à ses descendants. Votre lignée n'aura pas de fin. Votre royauté ne s'éteindra jamais. L'un de vos descendants règnera éternellement. Jésus va ressusciter. Il l'annonce, et cela de sa propre autorité. Il est bien ce Messie, ce roi tant attendu qui va régner éternellement. Et c'est sa qualité de roi, de Messie, qui lui confère l'autorité de faire ce qu'il a fait au temple, la purification. Hein, les autorités le questionnent. Mais qu'est-ce qui te permet de faire ça? De chasser les gens comme ça? Par quelle autorité? Montre-nous un signe. Et Jésus de leur répondre de façon très détournée, on comprend qu'ils aient eu du mal à comprendre. Je suis le Messie, le grand roi d'Israël, qui va régner éternellement, qui va vaincre la mort. Voilà d'où me vient cette autorité, l'autorité de purifier mon temple. Alors à ce stade de l'évangile de Jean, donc les deux premiers chapitres, d'une certaine façon, tout est déjà dit. Nous connaissons déjà la trajectoire de Christ. Dieu s'est incarné en la personne du Fils. Ça, c'est le prologue, l'introduction. Le Fils, Jésus, va mourir en s'offrant comme sacrifice. Ça, c'est la déclaration de Jean-Baptiste avec cette image de l'agneau de Dieu. Jésus va ressusciter. C'est la déclaration de Jésus lui-même. Alors, une réflexion s'impose à nous. Jésus est présenté comme le roi qui juge ici. Et on le voit donc assumer pleinement son titre. Ce n'est pas un roi sans force, sans autorité. Il commence à remettre de l'ordre dans sa maison. Et on doit redouter son jugement. Les vendeurs, les changeurs ont été chassés violemment. Nous avons donc raison de nous faire du souci. Jésus est un roi terrible et redoutable. Ce n'est pas un petit roitelet qu'on peut manipuler, acheter, amadouer. Jésus est le grand roi puissant qui ne transige pas avec le mal et qui va juger avec force et justice. Nous pouvons trembler. Mais, tout à la fois, il est celui en qui on peut rencontrer Dieu, en qui on peut être réconcilié avec Dieu. Il est celui qui nous rend Dieu favorable par sa mort sacrificielle. Si nous nous réfugions en lui, si nous entrons en lui comme les sacrificateurs entraient dans le temple, alors plus de crainte. Dieu est avec nous, Dieu est tout près de nous, nous entrons dans sa présence. En Jésus, nous pouvons nous tenir avec assurance devant Dieu. Il est donc à la fois le juge et celui dans lequel, par lequel, on peut échapper au jugement. Un juge humain prononce une sentence, il nous condamne, et il serait absurde de chercher auprès de lui, en lui, l'acquittement. C'est auprès d'un autre qu'on va chercher l'acquittement, l'avocat. Avec Jésus, c'est très différent. Nous avons à redouter son jugement. Et pourtant, c'est en lui que se trouve notre acquittement et notre réconciliation avec Dieu. Alors, concluons. Ce sera assez long quand même, la conclusion. Si Jésus est bien le Messie, le grand roi, le juge, qui a toute autorité, il serait sage de notre part de nous poser la question suivante. Qu'attend-il de moi? Que me veut-il? En effet, nous n'avons rien à craindre, d'ailleurs, ni à espérer de quelqu'un qui est sans autorité. Pour mener votre vie, vous ne vous préoccupez pas de ce que je peux penser de vous. Et vous avez d'une certaine façon, car ce que je peux penser de vous, n'aura pas de conséquences dans votre vie. Alors quand c'est un roi qui a du pouvoir, c'est déjà très différent. En ce moment, on peut suivre la vie du roi Henri VIII à la télévision. Alors, je peux vous dire que les sujets d'Henri VIII, eux, étaient très attentifs à ce que leur roi pensait d'eux. De lui dépendait leur ascension sociale, et même bien souvent leur vie. Demandez à la reine Anne Boleyn, qui a été, enfin c'est une parmi de nombreuses, décapitée sur ordre de son cher mari. Alors Jésus, lui, n'a rien à voir de près ou de mal avec ce roi sanguinaire, narcissique, pathétique, c'était un roi anglais. Mais Jésus a bien plus d'autorité que moi ou Henri VIII. À vrai dire, il a toute autorité. Il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, le tout-puissant, de qui toutes nos vies dépendent. La question vaut donc bien d'être posée. Qu'attend-il de moi ? De la réponse que nous donnerons à cette question dépendra non pas notre ascension sociale ou notre vie ici-bas, mais notre destinée éternelle. Alors souvenons-nous rapidement de l'objectif de l'auteur. Je relis Jean chapitre 20, versets 30 et 31. Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres signes qui ne sont pas décrits dans ce livre. Mais ceux-ci ont été décrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Contrairement à Henri VIII, qui voulait bien souvent la mort des autres, notre Dieu veut notre vie éternelle. Et cette vie, on le voit, passe par la foi, afin que vous croyiez. Dans le passage de ce matin, Jésus est confronté à la foi authentique et à un semblant, à une imitation de la foi. Alors les plus âgés ici s'y reconnaîtront. Le Canada Dry, vous souvenez-vous du slogan qui vantait ce produit ? Alors c'était « ça ressemble à l'alcool, c'est doré comme l'alcool, mais ce n'est pas de l'alcool ». Pour la foi, c'est un peu pareil. Ça peut ressembler à la foi. Ça peut avoir toutes les apparences de la foi. Ça peut briller et pourtant ne pas être la foi. Relisons les deux derniers versets de notre passage. Non, à partir du verset 22. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela et ils crurent à l'Écriture et à la parole que Jésus avait dite. Verset 23. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. La vraie foi, tout d'abord. Celle des disciples, ils crurent. Mais sur quoi leur foi est-elle fondée ? Les Écritures, il s'agit ici de l'Ancien Testament, et les paroles de Jésus. Autrement dit, la parole de Dieu. La foi véritable est celle fondée sur la parole de Dieu. Alors dans le prologue, Jean nous apprend que la parole s'est faite chair. Que cette parole est Dieu fait homme, que cette parole est Jésus. C'est donc bien en Jésus, une nouvelle fois, en Jésus et sa parole qu'est fondée la vraie foi. La foi, celle qui a pour objet la personne de Jésus et sa parole. Alors à côté de la foi authentique, Jésus est confronté à un semblant, une imitation de la foi, celle de la foule. C'est le verset 23. Alors sur quoi est basée, entre guillemets, la foi de la foule ? Les signes miraculeux de Jésus. La foule fonde sa foi sur les signes que Jésus produit au lieu de la fonder sur sa personne et sa parole. Alors vous avez là un panneau de la signalisation routière qui indique la direction pour la ville de Dublin. Alors il s'agit bien ici du panneau indiquant Dublin, pas de Dublin elle-même. Quand vous êtes devant le panneau, bah, vous n'êtes pas encore à Dublin. 18 km, pas très loin, mais vous n'y êtes pas. C'est un peu la même chose avec les signes que Jésus accorde. Ces signes pointent tous en direction de sa personne. Il nous indique que c'est vers lui qu'il faut aller, que c'est en lui qu'il faut entrer pour reprendre l'image du temple. C'est à la personne, c'est à Jésus que montre le signe qu'il faut s'attacher plutôt qu'au signe lui-même. La foule a raté la cible. Elle s'est attachée au signe, elle s'est attachée au panneau, plutôt qu'à la personne de Jésus et à sa parole. Alors nous, la personne de Jésus, son œuvre salvatrice à la croix pour nous, sa parole, nous suffisent-elles pour croire? Ou nous faut-il, comme la foule des signes, pour croire, pour mettre notre confiance en lui et pour le servir? Oui, Seigneur, tu dis dans ta parole que tu m'aimes, que je suis précieux à tes yeux, mais montre-le-moi. Montre-le-moi, donne-moi le mari, la femme tant désirée, le travail tant attendu, le logement tant souhaité, la reconnaissance tant adorée. Et je croirai que tu m'aimes. Notre foi repose-t-elle sur la seule personne de Jésus et sa parole, ou bien les signes qu'il pourrait m'adresser, les bénédictions qu'il pourrait me procurer, sont-ils nécessaires pour que je croie? Alors, que retenir ce matin? Nous sommes tous bien différents à des endroits différents sur le chemin de la foi. Alors à nous donc, qui n'avons pas encore placé notre foi en Jésus, que nous dit Jean ce matin? Jean nous dit que Jésus est le juge. Oui, Jésus est l'agneau de Dieu, celui qui s'est offert volontairement en sacrifice par amour pour nous. Mais il est aussi le roi, le Messie, qui ne peut transiger, négocier avec notre révolte. On va attendre un petit peu parce que c'est la conclusion, c'est quand même important. C'est pour ça que c'est important de... Je reprends. Donc à nous donc qui n'avons pas placé notre foi en Jésus. Que nous dit Jean? Jésus est le juge. Il est le roi, le Messie qui ne peut transiger, négocier avec notre révolte. Il est le grand roi qui a commencé à remettre de l'ordre dans sa maison. Il a chassé les vendeurs. Il les a jugés. Il les a expulsés loin de sa présence. Un jour, Jésus reviendra, nous le croyons, il reviendra en gloire, et lui, le roi tout-puissant, mettra de l'ordre, non plus dans le temple, mais dans toute sa création. Jésus jugera sa création, jugera le monde, il nous jugera. Pour échapper à son juste jugement, il n'y a pas 36 solutions, nous l'avons dit. Il n'y en a qu'une. C'est lui-même. Courons donc, non pas au temple, mais à Jésus, en Jésus, pour être réconciliés avec Dieu. Alors à nous qui sommes chrétiens ou considérés comme tels depuis fort longtemps, peut-être nous sommes-nous installés dans nos certitudes. Assurons-nous que Jésus est vraiment notre seul temple. Est-ce que je crois que Jésus seul, par son œuvre à la croix, peut me sauver? Est-ce que Jésus seul peut me faire entrer dans la présence de Dieu? Arrêtons-nous pour nous assurer que nous n'avons pas d'autre temple caché, que nous ne nous sommes pas attachés à un leurre, comme l'était la majorité du peuple juif au temps de Jésus. Moi, je suis religieux. Je vais à l'église. Régulièrement, peut-être pas tous les dimanches, régulièrement. Je suis issu d'une bonne famille protestante, et cela depuis des générations. Mes parents sont chrétiens. Mes parents sont chrétiens. Mes grands-parents, j'ai de la famille engagée dans la mission. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Autant de temples où Dieu ne se trouve pas. Enfin, pour nous, qui, par la grâce de Dieu, avons Jésus pour temple? Demandons-nous si nous sommes zélés pour notre Dieu comme l'était Jésus. Alors bon, la réponse est bien sûr négative, mais elle ne doit pas nous décourager. Plutôt nous inviter à nous questionner sur les priorités dans ma vie. Dieu et sa réputation sont-ils vraiment le centre de ma vie? Ou bien est-ce encore moi? Mon épanouissement, mes amis, mes voyages, que sais-je? Que le Seigneur nous aide à être zélés pour lui, et cela pour sa seule gloire. Amen.
Merci Michael. Je pense qu'on va répondre à cette prédication. On va peut-être changer notre chant et revenir au chant du début, en Jésus seul, qui exprime bien cette application de Jésus est notre seul temple. Donc je vous invite à vous lever pour chanter, rechanter ce beau cantique en Jésus seul. Mmh.